Avant de lancer l'écoute de cet épisode, laissez-moi vous parler d'Indy, qui soutient notre podcast Maddy, conversation avec un kiné aujourd'hui. Indy simplifie la vie de milliers d'indépendants en France en automatisant leur comptabilité grâce à un outil simple et ludique. Et chez Maddy, vous savez à quel point nous aimons simplifier la vie des kinés. Comptabilité réalisée en un temps record, synchronisation bancaire sécurisée, catégorisation automatique des transactions, déclaration fiscale en quelques clics, Indy vous guide pas à pas pour valider votre clôture fiscale, le tout pour 24 euros TTC par mois. Et comme la 2035 vous pend au nez, nous avons décidé de vous offrir 2 mois d'essai gratuits pour tester Indy et vous libérer enfin du poids de la compta. Merci Indy. Bienvenue chez Maddy, conversation avec un kiné. Je suis Jeanne Elia et je vous accueille sur le podcast Maddy pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Maddy, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Maddy laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les maux après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Maddy, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Maddy, c'est aussi une solution pensée pour simplifier le quotidien des kinés libéraux avec leurs patients et gagner du temps. Site internet clé en main facilement personnalisable pour le cabinet, agenda dématérialisé, partageable entre collègues et accessible partout, tout le temps. Prise de rendez-vous en ligne pour ceux qui le souhaitent et même système de liste d'attente pour fluidifier la prise en charge des nouveaux patients. Pour tester la solution et bénéficier d'un mois gratuit, rendez-vous sur www.maddydoctor.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette saison, c'est aux côtés de Thomas ou Romain que j'ai le plaisir d'accueillir 2 fois par mois un nouvel invité au micro.
Je suis Thomas.
Je suis Romain.
On est 2 kinés passionnés par notre métier.
Passionnés à tel point qu'on a souhaité développer WisioPro, une appli gratuite pour les kinés et leurs patients qui permet de prescrire en quelques clics les exercices à faire entre les séances.
Notre objectif, c'est d'impliquer nos patients au quotidien. C'est tellement plus agréable de travailler avec des patients motivés.
Et en 2021, sérieux, prescrire ces exercices sur des post-it, c'est terminé.
Vous l'aurez compris, on souhaite mettre en avant notre beau métier et développer une appli qui nous sert à tous au quotidien. Prendre part au podcast avec Maddy, c'est aussi pour nous une façon de nous inscrire dans cette nouvelle ère d'une kinésithérapie innovante, inclusive, qui vit dans son temps pour proposer le meilleur à nos patients.
Entre Wisio et Maddy, ça a été l'évidence. C'est pour ça qu'on a même décidé d'intégrer Wisio dans notre plateforme Maddy pour que d'un coup d'un seul, vous, kinés libéraux, puissiez proposer la prise de rendez-vous à vos patients depuis vos sites internet Maddy, mais aussi gérer votre planning de rendez-vous en toute sérénité et prolonger le parcours de soins de vos patients jusqu'à l'envoi de programmes d'exercices super bien ficelés. Bref, vous êtes ici pour entendre des kinésithérapeutes passionnés. Je vous laisse donc prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Une fois n'est pas coutume, nous donnons aujourd'hui la parole à Thibaut Portela, neurochirurgien au CHU de Dijon et spécialiste du rachis. Aujourd'hui avec Thibaut, on va parler canal lombaire étroit, discopathie dégénérative, hernie, et Thibaut va nous donner à voir un petit bout de son quotidien entre ostéosynthèse et arthrodèse rachidienne. Mais surtout, il est question de pluridisciplinarité dans cet épisode, de complémentarité entre chir et kiné, car il est urgent d'engager le dialogue entre professionnels de santé au service de la réussite thérapeutique et au service des patients. Bienvenue donc à Thibaut Portela. Bonjour Thibaut, bonjour Romain.
Bonjour à vous.
Thibaut, écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui au micro de Maddy. Pour un épisode un petit peu spécial. Bienvenue également à toi, Romain. C'est ta première à mes côtés pour co-animer les épisodes du podcast en alternance avec Thomas. Alors, avant qu'on passe justement à notre invité d'honneur aujourd'hui, Thibaut Portela, je me dis peut-être que ça peut être pas mal que tu te présentes, Romain, en quelques mots, parce que moi, je te connais bien, mais les auditeurs, pas forcément. Tu peux nous dire un petit peu qui tu es?
Eh bien, carrément. Eh bien, bonjour Thibaut, bonjour Janilia. Donc, moi, pour me présenter en deux, trois mots, donc je m'appelle Romain. Je suis kinésithérapeute depuis 10 ans, 10, 11 ans. Pour la petite anecdote, j'ai fait mes études de kiné avec Thomas, qui a animé avec toi aussi les autres podcasts depuis quelques temps. Et après un petit passage en Martinique où j'ai exercé pendant 2 ans, j'ai rencontré des super, super kinésithérapeutes, je suis revenu sur Paris, j'exerce en libéral dans un cabinet avec des amis, dont Thomas, encore une fois. Je suis aussi cofondateur de WisioPro, une application qui permet aux kinés de prescrire des mouvements rapidement pour que les patients continuent de bouger et de progresser entre les rendez-vous. Et puis, en termes d'influence, j'ai des influences en thérapie manuelle, puisque j'ai fait le cursus, en McKenzie. Et puis, je suis assez proche aussi des points de vue, des approches de Frédéric Sroure sur l'épaule, de Flavio Bonnet sur la clinique du coureur et la prise en charge des coureurs. Voilà.
Génial. Merci pour ce résumé.
C'était mon CV, voilà. Si vous voulez m'embaucher, je ne suis pas disponible, mais c'était...
Alors Thibaut, donc du coup, c'est un plaisir de te recevoir. Je le disais en amont, c'est un épisode un peu spécial parce que je ne spoil rien. Tu n'es pas kinésithérapeute, tu es neurochirurgien.
Tout à fait.
On va en discuter un petit peu après. Et donc pour nous, c'est le deuxième épisode en fait de notre hors-série conversation avec un soignant. Puisque comme tu l'as peut-être déjà entendu, nous on a plutôt l'habitude d'interviewer des kinésithérapeutes, comme le nom du podcast l'indique, m'a dit conversation avec un kiné. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance de te recevoir, puisqu'en fait, on va parler de l'envers du décor, de ce qui se passe finalement dans le bloc pour les patients qui subissent des chirurgies avant de passer les portes des cabinets de kiné. Et du coup, c'est une chance parce qu'on sait tous que souvent, par manque de temps, de volonté aussi parfois, la collaboration pluridisciplinaire, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis plus globalement, en fait, les synergies entre la médecine hospitalière et la médecine de ville ne sont pas toujours optimales. Et toi, tu as une vision assez intéressante, on va revenir là-dessus, parce qu'en fait, tu es un chirurgien qui voit clairement l'intérêt de la kiné, qui la recommande à ses patients. Tu vas pouvoir évidemment te présenter, mais avant toute chose, je voudrais te poser la fameuse question à 1000 points, qui est un peu une tradition dans notre podcast. Tiens, vas-y Romain, à toi. Baptême du feu, question à 1000 points.
J'ai bien envie de poser cette question à 1000 points. Mais aujourd'hui, la question qui nous est venue, c'est le CHU de Dijon, Thibaut. Est-ce que c'est vraiment comme dans les séries américaines? Est-ce qu'il y a des médecins un peu surdoués qui se baladent avec une canne comme ça dans les couloirs en posant des diagnostics, des infirmiers ou des infirmières ultra sexy à un rythme de folie? Des Patrick Dempsey et Georges Clooney qui viennent sauver des vies. À toi le micro.
Je vais en décevoir plus d'un, mais non. Les seules personnes qui se baladent avec une canne et qui essayent de poser des diagnostics, c'est nos patients qui ont des traumatismes crâniens et qui ne sont plus vraiment là. Mais globalement, non. Il n'y a pas d'infirmière ultra sexy en blouse moulante ou de Dr House qui se balade et qui donne des avis quand c'est la catastrophe. Non, c'est malheureusement pas du tout la réalité, et heureusement d'ailleurs.
Et bien, ça replace le cadre. C'est dommage.
Bon, dommage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, du coup, le podcast est fini. On peut tous remballer. Plus sérieusement, du coup, Thibaut, toi, donc, t'es neurochirurgien, tu vas te présenter, et on meurt d'envie d'en savoir un peu plus sur en fait, ton parcours, ce qui t'a donné envie de devenir chirurgien. Combien de temps ça a pris pour devenir le chir que tu es aujourd'hui?
Déjà, merci beaucoup, Janelia, de m'inviter à ce podcast très intéressant qui pourra profiter à plus d'un. Et merci à toi, Romain, aussi, de le co-animer. Alors, moi, je suis neurochirurgien de formation et j'ai dédié ma pratique à la chirurgie du rachis, à la colonne vertébrale, puisque quand vous êtes neurochirurgien, vous avez deux options. Soit vous faites plus du crâne et vous vous spécialisez dedans, soit vous faites plus du rachis. Normalement, vous avez toujours une orientation particulière. Alors pourquoi j'ai fait neurochirurgien? J'aurais pas forcément la réponse. Je pense que c'est des épisodes de vie qui ont fait que. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis de santé. J'ai été opéré de multiples reprises dans l'enfance. Donc, j'ai toujours eu un rapport particulier avec l'hôpital à cause de ça. Assez jeune, je savais que je voulais faire de la médecine, mais alors quoi? Je savais pas forcément trop, mais je savais que je voulais un peu rendre l'appareil de ce qu'on m'avait donné. Et mon premier stage après la P1 en deuxième année, mon stage de stagiaire, il a été fait en neurochirurgie. Coup de chance, premier stage de ma vie en milieu hospitalier, c'est dans le service de neurochirurgie où j'exerce actuellement. Et c'est là que j'ai rencontré le chef de service, le docteur Borin, qui m'a orienté et qui m'a un peu suivi jusqu'à ma décision finale après les ECN de prendre neurochirurgie Dijon, là où j'ai pu faire mes armes. L'internat, il dure 5 ans, 6 ans si jamais vous souhaitez faire une année recherche, chose que je n'ai pas faite parce que l'année recherche est plus à orientation universitaire pour faire de l'exercice type PUPH en CHU, chose que je n'avais pas forcément la vocation. Et une fois que vous avez fini vos 5 ans d'internat, vous attaquez ce qu'on appelle l'assistanat. L'assistanat, c'est 2 ans de mise en pratique, on va dire, parce que vous opérez quand même pas tant que ça en tant qu'interne, parce que c'est une spécialité qui nécessite un peu de doigté et on peut pas laisser des internes de premier semestre opérer. Donc on opère relativement tard selon les écoles et les équipes. Et puis c'est à ce moment-là sur l'assistanat qu'on a tendance à se former pour de vrai, à mettre en pratique toute la théorie qu'on a eue pendant 5 ans et à pratiquer sur notre art pour le développer. Donc moi, je suis en fin de première année d'assistanat au CHU de Dijon et actuellement, je ne fais quasi exclusivement plus que de la colonne vertébrale du rachis, hormis en garde où on est amené à prendre des traumatismes crâniens et des urgences neurochirurgicales globales. Voilà où ça m'a amené aujourd'hui.
Hyper intéressant. Et du coup, toi, tu as choisi le rachis plutôt que le crâne. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait un petit peu que tu t'es orienté plus dans cette voie-là? Est-ce que c'est en rapport avec ton premier stage, celui dont tu parlais?
Non, je pense pas. Non, mais en fait, j'ai été formé par un chirurgien chef de service de Dijon, le docteur Borin, qui avait une appétence un peu plus importante pour le rachis. Et je pense que à force d'être à son contact, j'ai préféré plus cette pathologie-là que le crâne, ce qui m'a amené à remettre en question beaucoup de dogmes qu'on avait et qu'on a toujours aujourd'hui sur l'intérêt de l'instrumentation, de la mise en place d'arthrodèse, tout ce qui va avec, et de revoir un petit peu ma façon de penser par rapport à la prise en charge globale des patients, hein, ce qui a amené à ce qu'on se rencontre. Thomas et toi, pour justement la prise en charge de nos patients conjoints avec la kinésithérapie. Mais non, c'est, je pense que c'est les histoires de vie et mes différentes années qui m'ont orienté plus sur la colonne vertébrale que sur le crâne.
Ok, super, très clair. Alors, je vous propose qu'on revienne juste après, effectivement, à cette collaboration et à ta vision de l'intérêt d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire, pour tes patients. Mais avant ça, moi, j'aimerais quand même bien que tu nous expliques un peu tes premiers pas dans la vie de chirurgien. On a compris qu'en fait, on n'opère pas tout de suite. Hein. Clairement, il se passe quelques années avant de rentrer dans un bloc, peut-être pas, mais en tout cas, opérer. Donc toi, c'était il y a quelques temps maintenant, quelques années, je pense. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur cette première expérience, sur ta première opération, par exemple?
Alors, ma première opération, j'aurais du mal à m'en souvenir. Mais,
ah ouais?
Oui, parce qu'en fait, c'est mon point de vue, mais ça se noie dans l'expérience. Et finalement, la première chirurgie n'est pas forcément celle qui vous marque le plus. Parce qu'il y en aura des plus compliquées, des plus stressantes, des plus anxiogènes qui vont vous marquer, elles. Mais oui, je me souviens de c'est quand même ces premières fois où vous rentrez dans un bloc opératoire, cette sensation de sacre qui s'en dégage, où finalement vous avez le patient au milieu et tout le monde s'occupe de lui, avec le chirurgien qui va faire son geste, l'aide opératoire qui est en train d'installer, et toutes les infirmières et anesthésistes, équipe d'anesthésie qui s'occupe de techniquer le patient. C'est un milieu un peu particulier, parce que c'est pas celui qu'on a dans les films. C'est-à-dire que vous avez celui qu'on a dans les films qui est extrêmement toujours en urgence, où rien ne va, où c'est la catastrophe, où tout le monde court partout, alors que non. Non, un bloc opératoire, c'est calme, ça gueule pas partout, chacun a un rôle bien défini, c'est comme un avion. Il y a la checklist d'entrée, on sait pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'on va lui faire, la position elle est bien, on a tous les points qui pouvaient poser souci durant la chirurgie, le patient il est là pour tel problème, globalement c'est très carré, heureusement d'ailleurs, hein. Mais c'est peut-être aussi, on va dire... bordélique que ce qu'on peut voir dans certaines séries télévisées, c'est pas du tout le cas. Heureusement d'ailleurs, hein. Heureusement.
Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir le trac, d'être un peu stressé avant d'intervenir en chirurgie ou... Ouais.
Oui. Aujourd'hui moins qu'avant, mais effectivement, je me souviens au début quand vous faites votre première hernie discale tout seul, faut être honnête, vous avez les chocottes, hein. Chocotte de ne pas savoir faire correctement ce que vous allez faire, est-ce que vous allez tout enlever, est-ce que le patient va bien se réveiller, est-ce que ça va bien se passer. Et moi je me souviens, sur mes premières interventions, il y avait toujours quelqu'un qui était disposé et disponible pour m'aider, pour contrôler que la chirurgie se fasse dans de bonnes conditions, et puis progressivement vous êtes laissé une fois que vous avez acquis suffisamment d'autonomie. Mais oui, moi j'ai des sueurs froides quand je rentre sur une intervention qu'on ne fait pas ou qu'on fait peu, parce qu'il y a des interventions qui sont quand même peu fréquentes. Et puis même les premières interventions que vous faites avant de vous lancer sur d'autres prises en charge et sur des pathologies classiques que vous ferez ultérieurement, ça a toujours un peu c'est la stress de la première fois, on va dire.
Alors justement, c'est quoi les types de prises, enfin les opérations, on va dire, les plus classiques, les plus fréquentes, et celles qui sont beaucoup plus anecdotiques, en fait. Ça se décompose comment?
Alors, le rachis, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que vous pouvez passer devant pour tout ce qui va être traité des discopathies, soit au niveau cervical, soit au niveau lombaire, ce qu'on appelle les arthrodèses lombaires par voie antérieure, les ALIF, comme on les surnomme, où vous allez enlever le disque par devant en passant entre les gros vaisseaux. C'est quelque chose qu'on fait usuellement, où on a toujours un ami vasculaire dans le coin en cas de problème, mais globalement, ça se passe 99% du temps sans aucun problème. Au niveau cervical, c'est pareil, c'est encore plus fréquent, c'est les ACDF qui sont nommés tels pour arthrodèse cervicale. Et en fait, pareil, on va enlever le disque pour retirer une hernie discale. Après, vous avez la partie postérieure qui est là beaucoup plus conventionnelle et beaucoup plus connue, comme la hernie discale, le recalibrage canalaire, l'arthrodèse, où on va devoir parfois mettre des vis et instrumenter la colonne en cas d'instabilité, c'est les principales interventions qu'on fait, où on est parfois amené à mettre une cage entre deux vertèbres par derrière, mais globalement, l'abord est le même. Les chirurgies qui sont un peu moins fréquentes, mais alors après, tout dépend du centre, ça va être les corporectomies vertébrales, quand on est obligé d'enlever une vertèbre sur une grosse burst fracture ou une déformation ancienne de la colonne vertébrale pour traiter justement cette instabilité ou ce qu'on appelle des problèmes d'équilibre sagittaux sur des syphoses lombaires qui sont très très mal tolérées par les patients. On est parfois obligé de faire des gestes beaucoup plus lourds pour permettre d'avoir un résultat clinique satisfaisant. Okay.
Donc l'arthrodèse, si je comprends bien, elle n'est pas obligatoire dans ta chirurgie. Elle est vraiment là pour stabiliser... En cas d'instabilité du rachis suite.
Alors, l'arthrodèse, je pense qu'on a tendance à en faire trop. Vous pouvez le retrouver sans aucun souci. Le marché de la chirurgie du rachis, c'est l'un des marchés qui explose le plus, où on met toujours plus de vis. Toujours. Mais nos patients vont pas forcément mieux. Donc c'est que c'est pas la bonne solution. Mettre des vis pour mettre des vis, c'est pas ma philosophie, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Une ostéosynthèse ou une arthrodèse, elle doit être faite après réflexion et après avoir pesé le pour et le contre de cette chirurgie, parce que vous allez indéniablement bloquer un niveau qui va forcément à terme sursolliciter celui du dessus ou celui du dessous. Donc il faut quand même avoir conscience que ce que vous allez faire va être potentiellement, je dis pas sûr, mais potentiellement délétère sur les étages adjacents de votre montage. C'est ce qu'on appelle les syndromes adjacents. Dans la pratique, c'est des montages parfois longs qui vont se dégrader juste au-dessus sur une sursollicitation. Et là, c'est une reprise chirurgicale. On étend le montage et après, bah, des fois, c'est sans fin. C'est sans fin. Mais c'est pour ça que toute chirurgie ne nécessite pas une arthrodèse, heureusement d'ailleurs.
C'est marrant que tu dises ça parce que on a quand même le sentiment que on est de... Enfin, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est de moins en moins interventionniste et que finalement, toi, tu dis le contraire, en fait. Tu dis qu'on opère encore beaucoup et peut-être beaucoup trop.
Alors, beaucoup et beaucoup trop, je ne sais pas. Beaucoup, on opère beaucoup, ça, c'est sûr. C'est sûr parce que je crois que on avait dépassé... au bas mot, les 100 000 interventions par an en France de rachis, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. La population vieillissante, eh ben forcément, les pathologies classiques comme le canal lombaire étroit, la discopathie dégénérative, la sténose foraminale, ça va forcément augmenter indéniablement. Donc, ça va amener à plus de chirurgie. Et selon comment le praticien envisage et interprète le rachis, potentiellement à plus de mise en place d'arthrodèse ou d'ostéosynthèse. Donc tout ça, c'est plutôt en faveur d'une augmentation du nombre d'interventions dans le rachis. Mais ce n'est pas parce que le nombre de patients augmente que le nombre d'indications doit augmenter. Je considère qu'une intervention, ça doit être faite uniquement quand le traitement médical et rééducatif est un échec. C'est-à-dire que tous mes patients passent des cours de kiné et un mois à deux mois après, si le patient me dit ben, « moi la kiné, il me fait travailler, il me renforce, il me fait des étirements, il me fait des exercices, tout ce que vous voulez, ça ne marche pas et que le traitement médical n'est pas efficace », j'estime qu'à ce moment-là, il est licite de proposer une prise en charge chirurgicale uniquement en accord avec le patient. Celui-ci dit ben, « ouais, moi ça va pas, j'arrive plus à vivre ma vie comme je le veux, faut tenter d'améliorer ses douleurs. » Et à ce moment-là, propose une prise en charge chirurgicale.
Ok. Alors justement, pour faire le pont vers la kinésithérapie, nous on aimerait bien avec Romain savoir un petit peu comment toi tu voyais la kinésithérapie ben, avant de commencer ton exercice. Déjà, est-ce que tu en connaissais bien les contours? Est-ce que tu la considérais comme étant un passage obligatoire pour les patients en pré- et post-op? Et puis, globalement aussi, en fait, comment on te l'a enseigné, toi, à la fac?
Bon, bah alors la réponse, la dernière question, elle est simple. Pas, voilà, on va dire, pas, on ne me l'a pas enseigné. On n'enseigne pas la kiné en médecine. On n'enseigne pas la kiné en médecine. C'est probablement un gros tort, mais c'est comme ça, et on ne peut pas grand chose. On n'enseigne pas clairement ce que c'est que la kiné, à quoi elle sert et à quoi elle peut amener. Avant d'être vraiment opérateur moi-même, la kiné, je ne la voyais pas comme quelque chose d'indispensable. Je ne la voyais pas comme quelque chose d'indispensable parce qu'en fait, mes anciens ont eu des retours kinés, des avis kinés qui étaient quand même globalement pas bons. Avec l'air des électrodes et de tout ce qui va avec, qui a fait que ça a desservi votre pratique. Les chirurgiens n'ont pas forcément pour habitude de beaucoup changer leur pratique. Donc au bout de quelques années, je pense, quand ils se rendent compte que globalement tous leurs patients reviennent à des électrodes et que ça marche pas, ils abandonnent et ils cherchent plus forcément à savoir si jamais c'est une pratique isolée ou si jamais c'est la globalité. Donc oui, au tout début, ma vision de la kinésithérapie, elle était quand même mauvaise, parce que je considérais que ça ne servait pas à grand-chose et que je n'allais pas forcément en faire une réelle utilité. aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup changé de point de vue parce que je me suis rendu compte que mes patients, si je les opérais de la même manière, ils n'allaient pas forcément évoluer de la même manière selon les prises en charge post-opératoires ou pré-opératoires qu'ils allaient avoir. C'est-à-dire que si les patients n'avaient jamais eu de kiné, que je les opérais juste d'une hernie discale, eh ben, j'avais quand même de fortes chances d'avoir des lombalgies basses résiduelles. Si je leur mettais une arthrodèse ou quoi que ce soit, sans jamais vraiment faire de la kiné rééducative adaptée, parce que un patient qui vous dit « oui, j'ai fait de la kiné » et que vous ne posez pas la question, il peut vous dire « oui, très bien, j'ai fait de la kiné, mais en fait, j'ai eu des massages, j'ai eu des électrodes et des pierres chaudes. Globalement, ce n'est pas de la rééducation. » Donc ces patients-là, je ne les considère pas comme ayant eu de la rééducation. Je considère ça comme ayant eu un kiné qui n'était pas adapté à leur pathologie et je les réoriente vers des kinés avec qui je travaille, qui je sais que si jamais c'est un échec, ben à ce moment-là, la partie rééducative n'a pas pu être suffisamment efficace du fait de lésions organiques. Et à ce moment-là, je peux proposer quelque chose, mais sinon, c'est toujours de la kiné adapté à leur pathologie pour considérer que ça marche pas. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux kinés, principalement à Auxerre et à Dijon, avec différents cabinets, le cabinet 433 à Dijon et le cabinet de Boulevard de la Maladière à Auxerre, ainsi qu'un autre, je m'excuse d'avoir oublié leur adresse, mais que je remercie beaucoup parce qu'on travaille énormément ensemble et que j'ai des très très bons résultats de tous mes patients, ou du moins ils sont quand même très satisfaits de leur prise en charge. Où ils ont pu m'expliquer ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils travaillaient, leur point de vue. Ils n'ont pas d'électrodes dans leur cabinet. Donc effectivement, ils me disent que pour eux aussi, ça les a indirectement desservis. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et après, j'ai voulu pousser jusqu'au bout l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cherché à optimiser du moins la prise en charge que mes patients pouvaient avoir avec des kinés, avec... des exercices adaptés à leur pathologie. C'est là que j'ai rencontré l'équipe de Wizio, Romain et Thomas, avec qui on a pu travailler, ainsi que Pierrick, sur l'écriture de protocoles pré- et post-opératoires et qui ont reçu un très bon retour patient, où finalement les gens sont contents d'avoir quelque chose à faire qui les mette aussi en action dans leur pathologie. Et puis il faut aussi savoir la chose, c'est que globalement, à Auxerre, moi j'ai que 2-3 kinés, enfin 2-3 cabinets de kinés qui sont réellement disposés à recevoir des patients dans des délais acceptables. Sinon, tous mes autres patients, bah, soit les kinés sont complètement débordés. Et finalement, bah, ça prend du retard sur toutes les prises en charge.
Oui, complètement. Complètement. Bah, y a plein de questions hein, qui viennent par rapport à tout ce que tu dis. Déjà, en fait, si je comprends bien de ce que tu nous expliquais, pour avoir des meilleurs résultats, tu t'es rendu compte que ça pouvait être intéressant d'intégrer la kinésithérapie en préopératoire et en post-opératoire, évidemment. Mais en préopératoire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chirurgiens qui raisonnent comme toi. Moi, je trouve que cette manière de voir les choses est très, très intéressante. D'où ça t'est venu? Comment t'as rencontré ces deux trois réseaux de kinés et de cabinets que t'as pu citer tout à l'heure et avec qui t'as eu des bons résultats? Comment t'as fait pour les trouver? Comment t'as fait pour communiquer avec eux, pour organiser une sorte d'échange de communication? Comment t'as fait et comment tu prends en charge ton patient du préopératoire au post-opératoire?
Alors, je ne suis pas le seul, hein, c'est-à-dire que beaucoup de chirurgiens considèrent que la kiné est une nécessité. Et je pense qu'ils tournent en circuit fermé avec certains kinés avec qui ils ont une préférence et une certitude que la prise en charge sera bien faite. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu dérangé, c'est quand on demande en congrès et qu'ils le disent, ils ont eu de la kiné avant l'intervention, très bien, quel type de kiné? Ben, on est incapable de répondre. Donc, à moins que je sois le seul idiot du groupe à pas savoir ce qui est fait lors des séances de kiné, je pense que globalement, peu de chirurgiens ont réellement notion ou sont déjà allés un jour voir une prise en charge kiné, un renforcement du dos, un exercice de remusculation, d'étirement, tout ça. Je pense qu'on est quand même encore un peu sectorisé dans nos domaines. À chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il sait faire, entre guillemets, et laisse à l'autre... le soin de gérer ce qu'il ne sait pas faire. C'est probablement la meilleure façon de fonctionner, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'intéresser à ce que fait le voisin. Donc, je pense qu'effectivement, on est peu savoir vraiment ce que vous êtes capable de faire en termes de prise en charge patient. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré les kinés? Alors, c'est grâce à LPG. Je pense que vous connaissez un peu tous LPG dans votre domaine. J'ai pas d'action chez eux, je vous rassure, mais c'est des gens avec qui je travaille très bien, avec qui je m'entends très bien, et qui ont la force de beaucoup de relations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour rencontrer du monde, moi j'avais déjà essayé d'appeler des kinés, ils m'avaient dit ça nous intéresse pas de vous rencontrer. Point. Point. C'est arrivant, c'est simple et concis, ça les intéresse pas. Donc si vous voulez. Pas le temps ou pas l'envie ou pas l'intérêt, il y a plein de raisons que j'entends complètement. Mais du coup, ce qui fait que c'est difficile d'avoir des réseaux ou du moins de rencontrer des gens. Et ils m'ont permis de rencontrer tous les kinés d'Auxerre assez rapidement pour justement mettre en place ces circuits patients un peu privilégiés et qui marchent d'ailleurs très bien. Alors, la prise en charge patient, comment est-ce que je la fais? Je pense que globalement, tout le monde fait pareil, mais ma façon de faire, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez jamais eu de rééducation ou de traitement médical pour votre pathologie, que ce soit une hernie discale lombaire, cervicale, une discopathie, n'importe quoi, quel que soit votre âge, j'estime qu'il faut déjà vous traiter médicalement avant de partir sur la chirurgie. Parce qu'on n'est pas à 6 semaines. D'une évolution, c'est-à-dire que si je décidais de vous opérer, ce ne serait pas avant un mois et demi. Donc globalement, autant est déjà essayer de traiter médicalement avec de la rééducation et des traitements médicamenteux comme des anti-inflammatoires la douleur, parce que parfois ça passe et ça marche très bien, plutôt que de vous fendre le dos en deux, parce que c'est loin d'être anodin. Le moment où ça devient vraiment difficile pour le patient et que globalement on a épuisé toutes nos thérapeutiques, ben à ce moment-là on se dit là on va aller vers une intervention chirurgicale pour traiter de façon très ciblée la douleur. Une hernie discale, une discopathie, une arthropathie, une canale lombaire étroite, ce que vous voulez, mais on va nous cibler, on va ne traiter que ça, pour justement léser le moins possible les masses musculaires autour. Et pour ça, du coup, je demande à tous mes patients, avant, s'ils n'en ont pas fait depuis longtemps, de se relancer dans la kiné, de façon intensive, avant la chirurgie, pour justement se préparer à l'intervention, au stress chirurgical, aux douleurs qu'ils vont pouvoir avoir, et surtout qu'ils puissent déjà renforcer en préopératoire les membres inférieurs pour être capable, en postopératoire, d'avoir la meilleure récupération possible. À ça, j'y adjoins toujours de la renutrition préopératoire faite par des nutritionnistes de Dijon, avec qui je m'entends très bien, qui m'ont fait une ordonnance toute faite de renutrition préopératoire globale, avec de la vitamine C, de la vitamine D, des protéines, et un peu de fer pour justement diminuer les douleurs, le risque de saignement, le risque infectieux. Bref, ça aussi, psychologiquement, c'est une vertu de mettre dans l'esprit du patient que la prise en charge, elle est aussi grâce à lui parce qu'il va prendre les cachets, il va se préparer à la chirurgie et c'est un versant psychologique que je pense être hyper important. Et tous les patients, je leur dis immédiatement, en post-opératoire immédiat, je vous lèverai moi-même. On ira se mettre debout tous les deux, on marchera, on verra comment ça va. On verra tout de suite, les douleurs ont disparu, s'il y a des nouvelles douleurs, comment vous vous sentez, pour aussi les réassurer tout de suite, pour leur dire que le lever post-opératoire, quelle que soit votre intervention, je ne parle pas des scolioses et des chirurgies qui sont excessivement délabrantes, mais les chirurgies conventionnelles, ça ne doit surtout pas limiter leur mobilisation post-opératoire. Ça peut faire mal, mais il y a les traitements antalgiques qui sont mis en place pour, mais il faut tout de suite que les patients se rendent compte qu'ils peuvent avoir une vie quasi normale après la chirurgie pour justement qu'ils puissent se mobiliser, aller aux toilettes, déjeuner tout seul, avoir une vie normale et qu'ils ne soient pas limités et grévés par une chirurgie qui n'a pas pour but de les limiter justement. Et en post-opératoire, je leur dis toujours, dès que vous sortez, vous reprenez rendez-vous avec votre kiné. Il ne va pas travailler la cicatrice, pas forcément. Si jamais c'est une hernie discale, il va vous faire travailler la jambe, le bas du dos, il va vous étirer. Globalement, ça vous fera tout de suite du bien. Mais tout de suite, se remettre en mouvement immédiatement après pour justement que le kiné qu'il a vu en préopératoire le voit en postopératoire, parce que ça a aussi un intérêt, c'est un effet placebo, on va dire, mais de revoir son kiné rapidement, de se dire que je refais quasiment tout ce que je faisais avant, après la chirurgie, c'est top, et que le kiné lui puisse voir la que le patient a, et surtout si jamais il y a un problème, que le kiné puisse tout de suite nous appeler en disant là il y a un souci de cicatrice, ton patient va pas bien, la douleur elle n'est pas conventionnelle à ce qu'on a l'habitude d'avoir après ce genre de chirurgie, revois-le rapidement, et du coup ça permet aussi de limiter la perte de chance et la perte de temps pour le patient.
Mmh, ouais, bien sûr. Et alors, justement, pour creuser un peu dans ce sens-là, toi, qu'est-ce que t'attends des kinés ? Bah, en pré-op, évidemment, ça, on l'a un peu compris, mais surtout en post-op.
En post-op, c'est de réassurer le patient aussi, parce que il va avoir mal. Il va se dire, ah, attends, j'ai toujours un peu mal, j'ai toujours un peu de difficulté à me mobiliser. Oui, c'est probable, mais là où il y a un intérêt certain du kiné, c'est que vous le voyez beaucoup plus souvent que nous, beaucoup plus longtemps. Vous voyez comment est-ce qu'il était avant, puisque vous l'aviez forcément fait marcher, vous aviez une idée de comment est-ce qu'il était, et vous allez pouvoir le réassurer en lui disant, voilà, cet exercice, vous n'arriviez pas à le faire avant, maintenant vous le faites sans douleur. Avant, vous n'arriviez pas à marcher plus de 200 mètres, maintenant vous êtes venu depuis chez vous à mon cabinet, vous voyez la différence. Tout de suite, de pouvoir prendre en charge le patient de la façon la plus optimale possible et de la plus adaptée. C'est-à-dire, je sais que vous avez la possibilité de faire travailler des chaînes musculaires sans tirer sur la zone opérée, tout en remusclant progressivement. Et ça, c'est hyper important pour le post-op, que le patient ne se laisse pas aller, ne se démuscle pas, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il puisse venir, entre guillemets, gréver le résultat clinique qui était qui aurait pu être très bon si jamais effectivement vous l'aviez pris en charge d'emblée. Et on le voit bien, certains patients qui n'ont pas de kiné, bah ils disent, ah bah j'ai plus la douleur dans la jambe, mais maintenant j'ai mal dans le bas du dos. Ah bah vous avez fait de la kiné? Ah non non, qu'est-ce que vous faisiez? Ah, rien du tout. Voilà, je pense qu'il y a un réintérêt du kiné pour justement limiter ces douleurs post-opératoires qu'on peut avoir parfois et qui grèvent un peu nos résultats cliniques.
Bah complètement d'accord avec toi, hein. La kinésithérapie, déjà dans son rôle de réassurance, de rassurer le patient, de le suivre régulièrement, de lui expliquer aussi l'acte chirurgical qui a eu lieu, lui dire que c'est normal d'avoir ces sensations peut-être nouvelles pour pouvoir les apaiser rapidement, et puis rapidement aller vers l'actif, en fait, pour lui montrer qu'il peut faire des choses. Il y a souvent une kinésiophobie, hein, quand tu sors d'une opération, t'as peur, tu te demandes même si c'est solide. Toi, ce qui est génial là, dans ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que le lendemain de l'opération, en tout cas au réveil, pas le lendemain forcément, mais au réveil du patient, t'es à son chevet et tu le mets debout et t'es là pour lui dire c'est bon quoi, on peut se mettre debout, on peut faire quelques pas, c'est solide, allez-y. Et ça je pense que c'est top aussi que toi, en tant que chirurgien, tu le fasses, que les kinés derrière, eh ben, ils sachent que la chirurgie est solide. Parce que nous, des fois, on ne communique pas toujours avec le chirurgien, on n'est pas forcément toujours à l'aise avec l'acte qui a été effectué. Est-ce qu'on peut rassurer forcément le patient? Toi, là, tu as l'air de nous dire clairement que la chirurgie du dos, c'est quelque chose de solide, donc on peut rassurer nos patients. Et puis après, il faut les mettre en mouvement, quoi.
Ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est l'idée de se dire que la kiné en post-opératoire n'avait pas d'utilité ou pas d'intérêt parce qu'elle pouvait blesser le patient, bouger le matériel. Si jamais c'est ça, clairement, c'est que les vis ne sont pas bien mises ou qu'il y a un souci et que kiné ou pas kiné, ça se serait arrivé. Moi, j'imagine toujours le patient rentrer chez lui et faire n'importe quoi. Après, c'est peut-être une fausse idée. Et je pense que globalement, quand vous rentrez chez vous après une chirurgie, vous faites ce que vous faisiez avant. Donc je vois pas le problème entre faire ce que vous faisiez avant, qui est probablement plus délétère, que de faire de la kiné bien encadrée par quelqu'un qui sait comment la chirurgie a été réalisée, et c'est là où il y a un gros intérêt après, mais c'est que les kinés viennent au bloc, viennent voir ce que c'est qu'une intervention chirurgicale, viennent voir ce que c'est qu'un recalibrage canalaire, une hernie discale, une arthrodèse par voie antérieure. J'ai pu accueillir deux ostéopathes il y a 3 semaines, au bloc opératoire sur une cervicale et une arthrodèse par voie antérieure, et ça leur a permis de comprendre, eux, dans leur pratique, où est-ce que les douleurs pouvaient apparaître, pourquoi est-ce que ils ont mal parfois, parce que quand vous voyez entre deux vertèbres que ça bouge complètement parce qu'il n'y a plus rien qui tient, vous comprenez pourquoi les gens peuvent être douloureux. Et ça, c'est hyper important de voir ce que vous allez soigner derrière. Qu'est-ce que c'est qu'une hernie discale, par où on passe pour une hernie discale, quel est l'abord chirurgical qui va pouvoir poser problème au niveau des masses musculaires, les longitudinus, les multifidus, tous ces muscles qu'on peut venir un peu repousser, refouler et un petit peu enlever pour pouvoir passer. Enfin, tout ça, c'est hyper important, je pense, pour un kiné de savoir comment ça se passe en vrai, pour que la suite puisse être prise dans les meilleures conditions possibles.
C'est vrai que les patients, ils reviennent souvent après la chirurgie avec des douleurs, des courbatures aussi, tu vois, sur certains muscles. Nous, on ne sait pas forcément dans quelle position tu les places pour effectuer ton acte chirurgical. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quelle position tu les mets, par exemple, pour intervenir sur le rachis lombaire? Et est-ce que nous, on pourrait comprendre ce qui peut créer ces fameuses contractures de défense, ces courbatures, ces douleurs musculaires?
Alors, pour le rachis lombaire par voie postérieure, ils sont installés globalement toujours de la même manière, en décubitus ventral. Selon les tables et les équipes, c'est soit des bios qui vont être mis au niveau des crêtes iliaques et du thorax, ainsi que des chevilles, soit selon les tables, ce qu'on appelle les tables Allen, avec des plots au niveau des crêtes iliaques et du thorax, mais en laissant le ventre complètement libre. L'incision, c'est souvent paravertébrale, et il y a un décollement des masses musculaires et de leur insertion au niveau des épineuses. Tout dépend de la technique utilisée. Maintenant, on utilise de plus en plus la chirurgie sous tube, qui a pour but d'éviter la désinsertion musculaire, ou la chirurgie endoscopique. Mais ça, c'est encore peu répandu, et c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, il y a un réel intérêt à ce genre de thérapeutique. Là où ça peut chouiner un peu, c'est effectivement la désinsertion musculaire, qui est parfois douloureuse, parce qu'il faut bien se dire que pour aborder une colonne, si vous faites juste une hernie, vous allez désinsérer sur 2 cm le muscle. Si vous faites une ostéosynthèse, vous allez désinsérer sur 15 cm et récliner avec des écarteurs pendant plusieurs dizaines de minutes, voire 1 à 2 heures. Donc forcément, ça peut leur donner des douleurs musculaires séquellaires qui vont perdurer avec le temps. Et pour les voies antérieures, il y a deux positions possibles. La French position, c'est-à-dire comme les positions en accouchement, avec les pieds dans des étriers et les hanches légèrement fléchies. Parfois, ils peuvent avoir des douleurs au niveau des psoas avec ces positions, parce qu'en fait, on passe aussi en regard des psoas. On voit le psoas, on n'y touche pas, mais si jamais il y a un petit hématome, un petit épanchement ou quoi que ce soit, ça peut venir irriter ces masses musculaires qui peuvent être douloureuses, principalement l'extension des hanches. Donc, c'est des zones qui peuvent être tout à fait travaillés sans grande difficulté et sans aucune crainte, puisqu'en fait, on n'y touche pas du tout à ces muscles-là, ou qui sont seulement irrités, un peu contracturés. Il y a des choses qui peuvent, je pense, de votre côté, être faites pour pouvoir améliorer les patients.
Très clair. Et alors, du coup, toi, tu as l'air de dire clairement que il ne faut pas avoir peur de faire bouger le patient, le remettre sur pied. En fait, de toute façon, il reprend sa vie du quotidien, donc effectivement, il y a moins de chances qu'il fasse des mauvais, entre guillemets, même s'il n'y en a pas forcément mouvement sur le plateau technique de son kiné que chez lui. Mais pour autant, est-ce qu'il y a quand même quelques contre-indications? Est-ce qu'il faudrait être protectionniste sur certains gestes en post-op quand le patient arrive dans le cabinet de kiné?
J'estime que tous les mouvements qui vont être en rotation, après c'est toujours pareil, hein, les mouvements en rotation sont délétères pour la colonne vertébrale parce qu'elle n'est pas faite pour. Mais globalement, sur une chirurgie récente, les mouvements en rotation sont, de mon point de vue, les pires, parce que c'est là où vous allez mettre le plus en charge, s'il y a du matériel, le matériel en lui-même, et s'il n'y a pas de matériel, les capsules articulaires qui ont pu être un petit peu chafouinées ou les muscles qui sont un peu… Voilà. Je pense que globalement, il n'y a pas de réelle contre-indication à une prise en charge kiné, parce que globalement, le patient fera tout. Justement, il fera même de la rotation à domicile pour aller chercher un pot dans son placard ou n'importe quoi. Mais je pense que la rotation est vraiment la chose à éviter le plus possible. Mais même, de toute façon, vous le savez encore mieux que nous, la rotation est vraiment la chose à pas forcément faire en termes de rééducation ou du moins pas dans toutes les conditions.
Du coup, restez peut-être prudent sur les premières semaines sur la rotation lombaire. Ok. D'ailleurs, il y a un des rôles importants que tu as souligné tout à l'heure, que tu attends du kiné, c'est de t'alerter en cas de douleur un petit peu anormale, de drapeau rouge. Qu'est-ce que toi tu considères comme une douleur importante à signaler, à signaler au chirurgien avec qui on travaille, si on commence à voir le patient évoluer d'une manière ou d'une autre?
Alors après, il y a toujours des patients qui vont avoir des recrudescences douloureuses, et ça, c'est classique. Mais il faut être honnête, on en a quand même Pas beaucoup. C'est pour ça que je trouve que, et même si le patient est un peu douloureux et que c'est un peu atypique pour lui ou même pour vous, c'est pas inintéressant de nous prévenir, parce que ça aura aussi un effet psychologique pour le patient. Mon chirurgien est au courant, il a été prévenu, il a vérifié que tout allait bien, tout se passe bien. Et ça, c'est important. Mais globalement, ce qui est important de noter, c'est principalement la désunion de cicatrice. La désunion de cicatrice, c'est, par exemple, votre cicatrice, elle est belle les premières fois où vous le voyez, ou du moins le pansement ne coule pas. Mmh. Et puis, bizarrement, au bout de 10 jours, le patient dit « Ah, j'ai quand même un peu mal dans le bas du dos », et vous constatez que la cicatrice est sale.
Ouais.
Même forcément, sans forcément avoir beaucoup de connaissances, ou de moins de savoir, parce que même moi, il y a certaines cicatrices que je reprends pas parce qu'elles sont pas forcément très belles et qui évoluent très bien malgré tout. Et ben, ne serait-ce que de nous prévenir pour qu'on soit quand même en alerte sur ce patient, ah ben, il peut s'infecter ou faut qu'on fasse attention. C'est des choses importantes parce que ça évitera, et ça évitera surtout le retard de prise en charge et la perte de chance pour le patient. Après, il y a toujours toutes les douleurs brutales de topographie radiculaire que vous connaissez aussi bien que nous. Ouais. Va apparaître dans les suites d'une chirurgie, et ben est-ce qu'on a réellement suffisamment libéré, ou est-ce que le patient a fait un hématome post-op un peu précoce et du coup il a ses douleurs radiculaires. C'est important de le signaler parce que nous, ça nous permet de le revoir rapidement, de nous assurer que par rapport à ce qu'on avait avant, il n'y a pas d'inquiétude. Et les déficits neurologiques, ça c'est quand même hyper important. C'est-à-dire qu'un patient qui est initialement chez vous pas déficitaire, qui devient déficitaire, ça fait partie des choses hyper importantes à nous prévenir, parce que ça aussi, ça va être de la perte. Plus on perd de temps, plus on perd de chances pour le patient de récupérer s'il y a quelque chose à faire.
Ouais, intervention rapide dans ces cas-là.
C'est hyper important par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous voyez un truc qui pêche, même sans forcément se dire « Ah, c'est grave, enfin, c'est pas très grave, mais ça peut le devenir », prévenez-nous. Parce qu'on vous sentira toujours reconnaissant de nous dire « Voilà, ce patient, il va bien, mais la cicatrice, elle n'est pas très belle. Il ne chauffe pas. » Mais il faut faire attention. Et ça, pour nous, pour le patient et aussi pour vous, c'est hyper important, parce que c'est ça qui tisse aussi les liens. C'est-à-dire que si jamais il n'y a jamais de discussion entre nous, ben, il n'y a pas de lien qui se tisse. Et le fait qu'on se parle de patient commun, ah ben ce monsieur, voilà, tu l'as opéré, il va vachement bien, ou celui-là, ben, tu lui as fait ce que tu faisais d'habitude, et là, ça ne va pas du tout, il faut le revoir rapidement. Et ben, ça permet de s'assurer aussi, entre guillemets, de se dire qu'on est avec des gens avec qui on peut travailler dans super bonnes conditions et qu'on aura toujours pas d'inquiétude sur ce qu'ils vont nous dire. Ça, c'est hyper important.
Du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour créer ces liens entre les chirs, les kinés et les autres professionnels de santé? Globalement, c'est vous contacter directement. Comment, par quel biais? J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce truc du syndrome de l'imposteur. Ah bah non, les chirurgiens, on les dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'apprécies en fait qu'on te contacte directement? Comment tu réagis?
Ah ben,
qu'est-ce que tu conseilles?
J'ai aucun souci par rapport à ça. C'est-à-dire que je considère que je préfère de loin qu'on m'appelle directement plutôt qu'on passe par des détours, par des manières détournées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui que de se rencontrer. C'est-à-dire que globalement, alors c'est sûr que les gens vont dire oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais enfin bon, on n'a pas le temps, mais une fois pour se rencontrer, pour tisser les liens et pour se rendre compte de qui est-ce qu'on a en face de soi, je vous demande pas de quitter votre travail toutes les semaines à 17h et voilà. Non, je vous demande une fois pour rencontrer les gens. Je trouve que c'est hyper important. C'est comme ça qu'on se rend compte, bah ouais, avec certaines personnes ça passe vachement bien. Je l'ai eu au téléphone une fois, c'était un peu bizarre, et puis là voilà, c'est vachement mieux. On se parle directement, on se tutoie. Je considère que en tant que professionnel de santé, on a le même intérêt, c'est le patient. Et on n'est pas là pour se dire « Ah oui, il est chirurgien, il ne faut pas le déranger, il est kiné, il est débordé. » Bah oui, mais en même temps, quand on opère, on opère. Quand vous êtes en consultation, vous êtes en consultation. Et puis, on peut bien se trouver un moment entre deux pour s'appeler quand il y a besoin, ou même se rencontrer un soir une fois dans l'année pour se dire « Voilà, bah, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu travailles ?» C'est hyper important, et surtout ça va faciliter les prochaines démarches. C'est-à-dire que si jamais vous avez directement le numéro de votre chirurgien avec qui vous travaillez fréquemment, bah moi je préfère que mon kiné avec qui je bosse m'appelle, quitte à ce qu'il me laisse un message: tel patient il va pas très bien, est-ce que tu peux le revoir rapidement. C'est plus rapide parce que c'est moi qui reçois le message, je sais le patient ce qui s'est passé, je fais confiance au kiné avec qui je travaille. bah, terminé, j'ai pas de doute, le kiné me dit ça va pas, et ben je rappelle le patient. Et même, c'est-à-dire que ça va mettre en place, hein, une relation de confiance, et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, c'est-à-dire qu'on est, on n'est pas différent de n'importe qui. Cette idée que le chirurgien est une place particulière, alors certains s'en confortent dedans, mais c'est pas une bonne option. C'est pas comme ça qu'on arrive à tisser des liens avec les professionnels de santé et qui on doit travailler pour les patients.
Ouais, et bah, c'est top, hein, le message que tu véhicules. Prendre le temps, hein, de rencontrer les chirurgiens, de ne pas hésiter à les appeler pour les voir physiquement et tisser des liens comme ça. Effectivement, on a tous des emplois du temps chargés, mais c'est un effort qu'il faut peut-être faire dans l'optique d'améliorer la prise en charge du patient et aussi de créer des connexions win-win où le chirurgien est content de travailler avec toi et toi, tu es content de travailler avec lui et de lui renvoyer le patient si tu as un doute, si tu as besoin d'un conseil ou autre. Donc, carrément, et ce message, il est fort et je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort, tout comme toi d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu fais l'effort de prendre du temps, hein, sur ton planning qui doit être probablement très chargé pour venir véhiculer des messages comme ça au kiné. Et je pense que c'est super. Et nous, par exemple, en tant que kiné, comment est-ce que on pourrait faire pour essayer de faire un peu pareil que toi, te rendre l'appareil, communiquer avec les chirurgiens? Est-ce qu'il y a des endroits, des réseaux de chirurgiens où on peut se déplacer pour échanger sur nos pratiques de kinésithérapeute? Tu disais tout à l'heure que tu les connaissais pas forcément bien, tu voyais pas forcément au départ comment on travaillait, comment on pourrait organiser ça et qu'est-ce que tu aimerais dire aux nouvelles générations de kinés qui ont envie de faire avancer les choses?
Ouais, je leur dirais qu'il faut surtout pas hésiter parce que globalement c'est eux qui vont vraiment un peu améliorer la situation. C'est des initiatives qui vont permettre d'améliorer cette situation. Globalement, faut pas hésiter à aller dans les services qui vous intéressent, à demander, à rencontrer les chirurgiens. Je n'ai pour l'instant jamais eu, comme ce qu'on peut avoir avec les démarcheurs médicaux, avec qui on s'entend très bien d'ailleurs, hein, mais on n'a jamais eu des kinés qui ont demandé à avoir des rendez-vous avec nous.
Ouais.
C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire le kiné dit, ben, j'aimerais bien rencontrer un chirurgien, est-ce que je peux avoir un petit moment sur votre journée? Jamais. Jamais. C'est dommage, en même temps, c'est assez prévisible, parce qu'effectivement, il faut quand même prendre votre temps pour le faire. Mais c'est pas parce que vous avez un refus qu'il faut s'arrêter. J'avais appelé des kinés à Auxerre, ils m'ont dit non, ça nous intéresse pas de parler avec toi.
C'est incroyable.
On n'a pas besoin de toi.
Ouais.
Donc voilà. Voilà, un refus veut pas dire que tous les kinés sont comme lui, hein. Et c'est pas parce qu'il y a un chirurgien qui va vous dire non que tous les chirurgiens sont des cons. Je dis pas qu'il y en a pas, mais chut, on en parlera pas. Mais voilà, il faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Faut vraiment se dire, bah, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous demandez au kiné, vous demandez au chirurgien de vous amener au bloc. Moi, je suis très disposé à amener tous ceux qui le souhaitent au bloc opératoire pour leur faire des journées types de arthrodèse par voie antérieure pour qu'ils voient un abord de discopathie par devant, une hernie discale lombaire, une hernie discale cervicale et une arthrodèse. C'est des journées simples où on peut discuter de tous les dossiers, de voir pourquoi est-ce qu'on est amené à l'opérer, qu'est-ce qu'on va lui faire. Les kinés voient comment ça se passe en paire opératoire et ensuite on va lever tous les patients ensemble, on voit comment est-ce qu'ils vont et ils voient tout de suite que bah, ça désacralise le geste. Et ça, c'est hyper important.
J'aimerais
bien aussi passer une journée avec des kinés pour voir comment ça se passe, comment est-ce que vous prenez en charge des patients, qu'est-ce que c'est que pour vous bah, une rééducation du dos. Et là où vous pouvez-vous intervenir, c'est peut-être sur les congrès de chirurgie, là où il y a le plus chirurgien, encore faut-il qu'ils acceptent, parce que c'est toujours pareil, hein. Les plannings sont faits un peu à l'avance et il arrive quand même assez fréquemment qu'il y ait pas que de la présentation de gestes chirurgicaux, de résultats de séries et compagnie, mais le souci c'est que les chirurgiens aiment bien l'evidence-based medicine, et ils aiment bien que tu leur dises, bah voilà, on a comparé deux populations, on a fait ça, ça et ça, et finalement dans cette population on a fait ça, ça marche mieux. Bon, quand même, je pense, chronophage et un peu compliqué de le faire, mais ça permettrait peut-être justement de rentrer dans ces zones un peu fermées Même si, intéressez-vous à comment est-ce que sont évaluées les prises en charge kinés dans nos prises en charge à nous, c'est une case. C'est kiné, oui, non. Voilà. Ouais. Je pense que globalement, vos études à vous de kiné, c'est pas kiné, oui, non, parce que globalement, sinon, on n'irait pas très loin. Donc, c'est là où il y a un réel intérêt, c'est que je pense que vous poussez beaucoup plus loin ce versant que nous, on limite à simplement est-ce qu'il a eu de la kiné en post-op et en pré-op ? Oui, non. Et puis, terminé. Donc, je pense que vous avez un réel intérêt là-dessus et que vous pouvez vraiment apporter beaucoup de choses aux futurs patients qui seront opérés ultérieurement.
Oui, complètement.
Thibaut, avant de conclure, on avait quand même envie avec Romain de creuser un peu sur, sur toi en fait, sur ton, sur ta vision de la chire et en fait ce que tu kiffes en fait tout simplement dans ton métier. Qu'est-ce que, moi j'ai juste envie de te demander qu'est-ce qui t'éclate en fait au quotidien. Quel patho t'aimes le plus traiter, pourquoi?
Ah moi j'adore les canaux lombaires étroits et les hernies discales cervicales. Ça, c'est
ton kiff.
Geste préféré parce que souvent, c'est des gens qui sont très, très, très embêtés, les hernies discales cervicales. Ils n'arrivent plus à dormir, ils ont mal dans les bras ou dans le bras. Enfin, c'est vraiment infernal. Et de voir qu'on peut les améliorer avec un geste simple, peu délétère, qui leur apporte un réel confort, je trouve que ça, c'est top. Et les petits papy-mamies qui arrivent parce qu'ils n'arrivent plus à marcher. Ils ont mal dans les pattes, le dos est bien coincé avec un canal lombaire très étroit. Un petit geste de décompression radiculaire qui prend quand même pas longtemps, qui est peu délétère, on désinsère très peu. Et ils sont debout le soir, ils marchent le lendemain, ils ont plus mal dans les jambes. Ça, c'est top. Et c'est ça qui me fait kiffer dans la chirurgie. C'est les patients en post-opératoire, quand vous les voyez, qui disent: ah, docteur, j'ai plus mal dans la jambe, ou docteur, c'est la douleur que j'avais avant, elle est plus là. Et cette sensation, c'est un peu de, c'est de la satisfaction perverse, hein, mais non, de se dire, je l'ai amélioré, il va aller mieux, ça me fait plaisir, et ça, c'est le truc qui me fait kiffer. C'est d'ailleurs pour ça que je bosse et que je me lève le matin, mais c'est ce versant-là de satisfaction que je peux avoir, quand je leur fais, quand je les améliore cliniquement. Mais alors par contre, c'est aussi un versant pervers parce que quand ils vont pas bien, ça vous bouffe.
Ouais.
Ça vous bouffe et vous posez une question, mais est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Machin, truc. Bah, vous posez mille et une questions, mais c'est un job hyper. C'est top.
C'est même très humaniste, hein, comme manière de voir les choses. Hein. Non, moi je trouve pas ça pervers du tout. Et c'est cool que tu vois les choses comme ça. Moi aussi, en tant que kiné, quand j'ai des échecs thérapeutiques, ça peut vraiment m'affecter. Et c'est ce qui fait que j'ai envie d'approfondir mes connaissances, de faire des formations, d'aller plus loin. Et c'est ce qui fait qu'on progresse, je pense. Est-ce que t'as une anecdote, t'en as cité quelques-unes avec les petits papis, etc., qui étaient assez mignonnes. Est-ce que tu as une anecdote un peu fun ou belle à nous partager?
Alors ouais, moi j'en ai une. C'est une dame que je vois en consulte, arrivée en fauteuil roulant, qui marchait plus depuis 4 ans et qui dormait dans son salon avec son mari, qui dormait à l'étage parce qu'elle n'était plus capable de monter les escaliers.
Ah ouais.
Beaucoup de problèmes cardiovasculaires, respiratoires, enfin, elle avait plein de pathologies. Et elle avait un canal très, 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 très étroit sur 3 étages. Ouais. Et je me dis, bon, de toute façon, globalement, elle ne peut plus faire grand-chose. On part sur un recalibrage, mais le plus simple ex possible. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de la démonter, c'est vraiment de qu'elle soit levée le soir et qu'elle puisse remarcher. On l'opère. Et alors, c'est pas tout rose au tout début parce qu'en fait, elle fait 2 hématomes post-opératoires coup sur coup.
Ah ouais.
Qui nécessitent une reprise chirurgicale pour retourner évacuer. Donc, globalement, elle a quand même douillé.
Ouais.
Faire partir 4 jours après son hospitalisation et le jour de son départ, elle me fait le plaisir de se mettre debout, chose qu'elle n'arrivait plus à faire, et de marcher entre son lit et son fauteuil. Donc, elle me dit, voilà, maintenant... depuis hier, j'arrive à remarcher entre mon lit et mon fauteuil. Donc, ça fait 3 mètres. Globalement, pour elle, c'était top. Et donc, elle rentre. Et je la revois 6 semaines plus tard. Et elle arrive avec 2 cannes. elle n'était plus en fauteuil. Et elle m'annonce avec fierté qu'elle a pu retourner dormir dans son lit à l'étage avec son mari. Et ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas pu le faire. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça qui vous font dire que ce que vous faites, certes, ce n'est pas toujours évident de prendre la décision et d'avoir la bonne décision pour tous les patients. Mais vous savez que si vous le faites, ça peut vraiment leur apporter un gain qui est parfois monstrueux par rapport à ce qu'on peut s'imaginer.
Et alors toi, du coup, comment tu vois la suite pour toi, ton évolution de carrière?
Alors, la suite, pour moi, je ne la vois pas à l'hôpital. Je ne la vois pas à l'hôpital parce que j'ai beaucoup de projets perso, beaucoup d'idées qui font que je pense que je n'arriverai pas à m'épanouir suffisamment à l'hôpital. Du coup, il est prévu d'ici un an que je m'installe dans le Nord à Arras, à la clinique de Bois-Bernard, pour exercer ma spécialité.
Donc plutôt en clinique, en clinique privée plutôt.
Oui, en clinique privée, parce que c'est là où j'aurai le plus de liberté pour mettre en place la prise en charge de mes patients comme je l'entends et comme je le souhaite de façon idéale.
Quand tu parles de liberté, tu t'entends en temps ou en moyen
Alors, c'est pas forcément le temps et pas forcément les moyens, mais c'est la liberté de décider de ce que je veux sans forcément qu'on me dise « oui, mais dans 10 ans ». Voilà. C'est la possibilité de dire « bah voilà, je veux faire comme ça ». On m'a dit « d'accord, pas de souci, on fera comme vous le souhaitez ». C'est pas de devoir discuter 107 ans pour mettre en place quelque chose. Voilà, c'est...
Parce qu'aujourd'hui, c'est une frustration que tu vis
Oui, c'est peut-être...
Au CHU ?
Oui, c'est peut-être une frustration. Alors, la frustration a été exacerbée par le Covid, ça, on n'en dénote pas. Mais je pense que je n'avais pas forcément la vocation de travailler en milieu hospitalier dès l'origine. Mais ça, tous mes collègues le savent. C'est pas un souci, mais c'est vrai que non, j'ai des envies qui sont qui font que si jamais je dois attendre 15 ans pour faire quelque chose, je ne pourrais pas.
Ouais, j'ai envie d'aller accélérer.
Oui, c'est ça.
Bon, on se connaît bien maintenant, Thibaut, et je sais que tu as un side project, tu as un projet personnel. Est-ce que tu peux nous en parler sans forcément trop en dévoiler, mais nous dire un petit peu ce côté-là aussi de ta personnalité, le fait d'entreprendre peut-être sur un projet à côté.
Alors oui, moi j'ai beaucoup de projets, beaucoup trop, la tristesse de ma femme, mais bon, elle a choisi, elle m'a épousé, maintenant c'est trop tard. Mais j'aime beaucoup innover et réfléchir aux différents problèmes et aux solutions que je peux leur apporter. Et il y a un geste pour globalement faire un rapide topo, il y a un geste en neurochirurgie qui se complique globalement dans 40% des cas. C'est relativement élevé, mais c'est admis que ces complications sont normales pour ce geste. Et en fait, lors de mon internat, j'ai eu la chance de passer de l'autre côté de la barrière ma spécialité de ma femme, la radiologie, de voir le nombre de complications que notre geste amenait. Et en fait, avec un collègue radiologue et l'aide de ma femme, on a décidé de se dire « mais c'est pas possible, on peut pas rester avec un tel problème sans y remédier ». Et dans cette optique-là, on a développé un brevet pour une technologie qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, qui est en cours de développement et qui, dès que ce sera possible, sera essayé d'abord chez les animaux pour valider la preuve de concept. Et une fois que ça sera fonctionnel, l'objectif c'est de permettre aux patients qui ont besoin de ce geste chirurgical en urgence de bénéficier de la prise en charge la plus optimale afin de réduire les complications. Parce que les complications peuvent parfois être dramatiques. Ça va de la simple infection, qui est globalement rarement bénigne à ce niveau-là, à l'hémiplégie et parfois au décès. Donc l'objectif, c'est vraiment de proposer aux patients une prise en charge et une technique chirurgicale avec une nouvelle technologie qui leur apporte le plus de bénéfices possible tout en gardant une sécurité maximale.
En gros, tu as une petite révolution, voilà, tu as inventé une petite révolution dans la tête. Tu es le Elon Musk de la chirurgie. Tu as fait un teasing qui donne trop envie d'en savoir plus. Peut-être l'occasion d'un autre podcast quand ce sera le bon moment.
Ça sera avec plaisir. Mmh. Et puis à côté, je travaille avec une petite équipe qui s'appelle Wizio, avec qui a développé justement ces protocoles d'auto-rééducation à domicile dédiés au rachis.
Complètement.
On en reparlera, n'est-ce pas, Romain ?
Yes, avec grand plaisir.
Écoute Thibaut, merci hein, encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler, de nous donner aussi cet éclairage-là qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais un peu sciemment, en fait, finalement, c'est hors chirurgie, en fait, le sujet du sport, en général, quand on a des lombalgies ou en post-op hein, également. On y reviendra sur ce sujet parce qu'on va faire prochainement une table ronde ensemble avec la clinique du coureur et ce sera vraiment l'objet de cette conf. Mais en tout cas, merci Thibaut pour cette heure qu'on a passée ensemble. On parlait tout à l'heure du manque de dialogue et de communication entre les professionnels de santé hein, en général. Voilà, c'est génial en fait d'avoir ces moments un peu privilégiés pour évoquer tous ces sujets puis désacraliser un petit peu peut-être aussi la place du chir et se rendre compte que finalement c'est accessible, c'est possible et il ne faut pas hésiter à passer par la fenêtre quand la porte est fermée quoi, pour créer des synergies.
Exactement ça.
Romain, je te laisse conclure.
Je trouve que tu as très bien conclu, Janelia. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi, Thibaut, comme à chaque fois que tu aies pris du temps pour venir nous expliquer ta vision du métier, de voir aussi la place que tu donnes à la kinésithérapie. C'est vraiment super. Et je crois que le message, c'est de ne pas hésiter à faire la démarche, de venir rencontrer les chirurgiens autour de soi. Moi, c'est bon, je déménage, j'arrive à Dijon maintenant, c'est bon, je tiens toi après, Thibaut, je déménage, je te rejoins, et après j'irai à Arras s'il le faut. Non, mais... Sérieux, travailler avec des chirurgiens comme ça, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, et il faut faire l'effort d'aller les rencontrer. Merci encore.
Merci à vous en tout cas, c'était vraiment top de pouvoir en discuter, de pouvoir partager cette vision, et puis j'espère que ça permettra au kiné de, comme tu dis, passer par la fenêtre quand la porte est fermée.
J'espère que cet épisode de Madi, conversation avec un kiné, vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast favorite, Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcasts. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi, d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello@madie.doctor. À très bientôt sur Madi.